Bonjour. Eh bien, suite à l'émission de présentation sur Raphaël Jérusalmi, donc cet auteur israélien de langue française, ce normalien parti en Israël, devenu officier de service de renseignement et qui se consacre déjà depuis plusieurs années à l'écriture, nous arrivons aujourd'hui à son dernier opus qui est paru il y a quelques mois et qui s'intitule « In absentia ». Ce dernier opus résonne de façon particulièrement forte ici en Alsace, car il s'agit d'un roman consacré au camp de Struthof, un camp où les déportés étaient vraiment plongés dans le NN, selon le jargon nazi, le Nacht und Nebel, la nuit et brouillard. Et j'aimerais lire à cet endroit la note de fin de récit de Raphaël Jérusalmi, de fin de roman. C'est très difficile ici de parler encore une fois d'un roman, même si c'est le titre qui est proposé en début de livre, car les faits réels sont très subtilement entrelacés avec de la fiction. Voici donc ce que note Jérusalmi. Le 2 août 1943, 86 personnes en provenance d'Auschwitz furent livrées vivantes au camp du Struthof, suite à une requête du professeur August Hirt ayant trait à la constitution d'une collection de squelettes pour ses recherches. La liste nominative des victimes figure dans cet ouvrage a été établie par le journaliste Hans-Joachim Lang, auteur de l'ouvrage « Die Namen der Nummern, les noms des numéros » publié chez Hoffmann und Campe en 2004. Encore un livre sur la Shoah, demande Raphaël Jérusalmi avec une nuance d'auto-ironie que l'on retrouve d'ailleurs ça et là dans le livre et dans toutes ses œuvres. Il n'était pas sûr que le projet soit le bon et d'ailleurs il n'avait jamais eu l'intention d'écrire un livre sur fond de Shoah jusqu'à ce que la conservatrice des restes d'un camp de concentration, le Struthof, ne lui raconte une histoire essentielle dans le roman. Point de départ du roman, comment un médecin du camp avait commandé à Himmler 100 squelettes pour étayer ses théories raciales qui lui avaient été livrées d'Auschwitz, sur pied, comme le dit l'auteur, sous forme d'humains vivants, gazés, avant que seuls les squelettes n'en soient conservés. Tu gardes les yeux fixés sur ses bottes noires, elles sentent bon le cuir. Tu prononces les chiffres de ton matricule, un à un, en allemand. La bise venue des collines te glace la nuque. Surtout, ne pas lever la tête. Une main apparaît, une main aux doigts épais, dont l'un pointe vers toi. C'est sa main, d'une blancheur un peu rose qui tranche sur le foncé des bottes, le brun de la terre damée, la grisaille de l'aube. Tu bombes le torse, mais pas trop. Tu l'entends dire quelque chose d'un ton ferme. Ce n'est pas à toi qu'il s'adresse. Acquiesçant d'un mugissement, un capot vient tassonner un coup de gourdin. Tu t'étonnes qu'il reste assez de vie en toi pour l'encaisser sans tomber à terre. Tes jambes flageolent. Tu es pris d'un léger vertige. Si le capot frappe à nouveau, tu t'écrouleras. Tu t'agrippes à ta douleur. Elle te porte. La main pâle s'abaisse. Les bottes se retirent. Lorsque tu oses enfin te redresser, la lumière des projecteurs t'aveugle. Tu la bois de toute ton âme. Les arbres te regardent. À mi-chemin de la carrière, il y en a un dont le tronc est tout écorché. Chaque fois que tu passes devant, tu éprouves un sentiment de victoire, surtout le soir au retour. Le voici. Tu t'en approches. Tu distingues les gerçures de l'écorce, désormais familière, tu lui envies sa sève. Il l'exsude en fines coulées qui donnent soif. Ah, tu voudrais t'étendre à ses pieds, t'assoupir à l'ombre de son feuillage. Tu trébuches, tu vas tomber. Une main se plaque contre ton dos, te pousse en avant. Tu dépasses l'arbre. Là, au tournant qui donne sur la vallée, des détenus se mettent parfois à courir, avant d'être rattrapé par les gardes ou en bas par la milice. Tu suces un caillou, c'est vers midi, lorsque le soleil sera au-dessus de toi, que les tiraillements de la faim se feront les plus atroces. Chaque jour qui passe, le courage de les endurer s'amenuise. Ce matin, pourtant, quelque chose dans la douceur de l'air, la limpidité du ciel en rend les affres moins ignobles. Quelque chose dans le murmure de la brise, telle une annonce. Ceci est le début donc du roman In Absentia, où Jérusalemie compte le destin de deux hommes unis par un même parcours concentrationnaire et que l'imaginaire viendra sauver, ou tout au moins viendra sauver l'un des deux. En fait, il y a trois récits qui sont entremêlés, entrelacés, entretissés, et qui se reflètent les uns dans les autres de manière à la fois experte et sensible. Il y a l'histoire de Shaul Paul Bernstein, amateur d'art juif à Paris, collectionneur, au milieu de figures artistiques comme Robert et Sonia Delaunay. Dans un Paris occupé, il s'absente dans l'art, dans les mondanités, dans les huîtres, dans la mescaline, jusqu'à son arrestation. Il sera déporté de Drancy à Auschwitz. Et puis il y a Pierre Delmain, le narrateur, un écrivain communiste qui lui se trouve dans un autre camp, à Strutthof, en Alsace. Le seul camp de concentration nazi sur territoire français, soit dit en passant, destiné essentiellement aux prisonniers politiques. Il survivra grâce à une sorte de régime de faveur, tout en assumant, ou grâce au fait, qu'il a accepté d'assumer la tâche d'achever en les étranglant à main nue les personnes agonisantes après avoir été utilisées par un médecin sadique pour ses expériences. Une tâche dont il s'acquitte, dont il tente de s'acquitter avec humanité, avec tendresse. Tu es le dernier homme qu'il verra. Encore un point. Ce narrateur raconte non pas à la première personne « je », mais raconte à la deuxième personne, le « tu ». Comme s'il y avait une sorte de dédoublement qu'on ne va pas tarder à constater au fil du roman, un dédoublement entre lui-même, ce qu'il fut, Pierre Delmain, écrivain, et celui qu'il devient dans le camp. On a ce recours au « tu » dans la modification de Michel Butor, où le narrateur s'adresse également à lui-même, créant cet effet de miroir. Ceux qui refusent d'accomplir la mission dont tu es investi, quitte à être exécuté sur le champ, sont des lâches, pire, des égoïstes, plus préoccupés de sauver leur propre âme que de porter secours à celle de leur prochain. Ils se prennent pour des anges. En quoi sont-ils moins coupables que celui qui, du fait de leur refus, fait le sale boulot à leur place ? Celui qui prend sur lui la faute plutôt que d'abandonner son frère aux caprices d'un SS ou d'un capot. Celui qui fait l'offre de ses mains pour ne pas laisser avilir l'autre par une balle tirée dans la nuque ou une injection de poison dans les veines. Celui qui préserve le souvenir des défunts, se remémore à jamais leur dernier cri, leur regard effaré. Comment pourrait-il les oublier ? Sa mémoire est leur seule stèle. Et lorsque un médecin lui demande « Mais comment fais-tu, comment faites-vous pour tenir le coup ?» Oui, il répond « Je m'absente ».« Je m'absente », »,« in absentia », qui est une formule juridique qu'on emploie lors d'un procès lorsque l'accusé est absent. Et donc, on le juge in absentia, en son absence. Mais ici, le terme fait écho à plus d'une absence, à celle du narrateur, Pierre Delmain, qui s'absente de lui-même, hein, qui justement parle à ce tu, s'absente de lui-même au moment où il doit accomplir sa tâche terrible, sa tâche macabre, tout en l'imprégnant d'un maximum d'humanité et de tendresse, comme il le dit. Mais c'est aussi l'absence de lui-même que le collectionneur, Paul Bernstein, cette absence qu'il appelle de ses vœux lorsqu'ils s'abîment dans l'alcool et dans la drogue. Un personnage, un juif né en Roumanie, arrivé en France, qui a manifestement fait fortune grâce à l'art, l'art dans lequel il s'abîme illégalement, l'art dans lequel il s'absente de la réalité. Yerushalmi Jérusalmi, Raphaël Jérusalmi, décrit Paul Bernstein comme un personnage aux yeux tristes et à l'humanité sans bornes. Lui aussi s'absente. Et puis il y a une autre sorte d'absence, d'inabsentia, c'est toujours celle de Pierre Delmas, le narrateur, lorsqu'il s'évade, lorsqu'il se met en absence de la réalité, et il s'évade, bien évidemment, par le truchement du rêve. Nous allons y revenir. Delmas sait que la personne qu'il est en train de tuer le regarde, et qu'il sera donc le dernier visage humain que cette personne verra, et qu'il sera, lui, leur stèle, une stèle vivante, une matseva, une matseive, vivante, hein, non pas de marbre ou de pierre, mais lui-même, dans son cerveau, dans son cœur, dans ses veines, il est la matseva de toutes ces dizaines, peut-être centaines de personnes qu'il va, entre guillemets, aider à disparaître. Pour lui, il s'agit presque d'une sorte de sacerdoce, comme on vient de l'entendre dans l'extrait lu. Alors le contraste est saisissant dès le début du roman, dès le second chapitre, puisque le premier ouvre donc sur cette image du camp où tout est, les humains sont déshumanisés, comme on l'a entendu, hein, puisque le nazi lui-même n'existe que par ses bottes, hein, et il mugit comme un animal, et le personnage, le narrateur lui-même, ne se présente pas comme un être humain, ou plutôt il est à peine humain. En revanche, l'arbre, hein, l'arbre, c'est l'humain qui est l'homme qui est un arbre des champs, dit le Deutéronome, eh bien c'est l'arbre qui incarne encore cette humanité, c'est l'arbre qui est capable, tel issu de la terre nourricière, de nourrir en rêve, bien sûr, de sa sève nourricière qui peut-être nourrir l'imagination du narrateur. Et dès le second chapitre, voilà, en voici juste l'ouverture. Les serveurs virevoltent parmi les tables, le plateau levé à bout de bras, évoluant comme des danseurs. La symphonie des verres et des couverts, des discussions et des rires règle leur chorégraphie. Tout est ici bruit et gaieté. Bernstein se tient à sa table habituelle, contre le pilier que l'attapier a barbouillé de couleurs vives. Oublieux du tintamarre, il lit le journal. Les nouvelles sont inquiétantes, on parle même d'une guerre. « Encore une coupe, René, et tu me mettras une demi-douzaine de fines de clair. Ça roule, monsieur Paul. » René emporte le journal que Bernstein a refermé et lui tend. Un couple apparaît, marchant d'un pas gracieux, oscillant comme un mirage dans la fumée des cigares. L'homme tapote le bord de son chapeau, saluant les uns et les autres avec une courtoisie quelque peu réservée. Il paraît timide, pas sa femme, qui prodigue œillades et sourires à qui en veut. Bernstein lève sa coupe de loin, leur souhaitant bonsoir. Ils acquiescent poliment. L'ont-ils reconnu ? René dépose les huîtres, la coupe de champagne et repart en coup de vent. Bernstein dîne seul. Francesco le rejoindra en fin de soirée, s'il peut se libérer. A-t-il dit. Le couple en question sont ni moins que les Delaunay, le couple de peintres célèbres. On verra également apparaître un peu plus loin Natalia Goncharova et Mikhail Michel Larionov, couple de peintres russes non moins célèbres que les Delaunay. Et l'on sent ici ce mouvement incessant, hein, qui débute tout de suite puisque les serveurs virevoltent parmi les tables, donc le mouvement gracieux, le mouvement de la danse, hein, le mouvement humain, avec accompagné de cette symphonie de verres et de cette phrase centrale « Tout ici est bruit et gaieté ». Il n'empêche que les nouvelles apportées par le journal sont extrêmement inquiétantes et que c'est la petite note, ou plutôt la petite fausse note qui se glisse ici. Écoutons plutôt cette musique avant de continuer. « C'était un extrait du psaume 34, versets 12 et 13, sur une musique de Baruch Hayat et Moïse Franco. Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime de longs jours pour goûter le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Je parlais tout à l'heure d'une troisième histoire. Un récit historique, là aussi, mais bien plus lointain et semi-fantastique, qui s'inscrit en fait dans la seconde croisade qui va partir pour Jérusalem au XIIe siècle. Et voici le début de ce rêve qui constitue en fait l'entrée, l'incipit du troisième chapitre. Donc nous étions partis du camp, du Struthof, puis sommes revenus en arrière juste avant-guerre, dans ce café de la Côte d'Azur, et nous voici à présent au XIIe siècle. Une vision onirique de cette croisade en marche. Durant la traversée de la forêt, plusieurs chevaliers du temple détalent en avant, allant rejoindre les éclaireurs et les guides. À chaque clairière, à chaque tournant, un guetteur leur signale si la voie est libre. Les chevaliers n'en demeurent pas moins aux aguets, scrutant les sous-bois avec méfiance. Ils craignent une embuscade, bien sûr. Mais ce qu'ils redoutent le plus, ce sont les démons qui somnolent dans les troncs creux et à l'ombre des fougères. À l'arrière, le gros de la troupe se resserre en une colonne ininterrompue, sans traînard. Et un étrange silence se fait. Rires et cris s'éteignent, tant parmi les princes que les muletiers. Les ménestrels se taisent, les catins se signent, des prêtres brandissent leurs croix vers la futaie, marmonnant tout bas des conjurations. Les chevaux et les chiens se calment, apaisés par cette soudaine tranquillité des hommes. L'étroitesse de la route force le convoi à marcher en bon ordre. Les sergents d'armes n'ont plus besoin de hurler, ni les charretiers de fouetter. L'expédition prend alors une allure presque digne. Donc c'est ce fantasme dans lequel s'évade l'écrivain Pierre Delmain, ou plutôt un fantasme qui s'empare de lui, qui lui permet mentalement de s'absenter du camp. Les personnages de cette fiction qui se poursuit et qui revient, cette fiction donc médiévale, sont des avatars plus ou moins explicites des personnages du camp. Mais il ne s'agit pas d'un commentaire ni d'une métaphore, mais bien précisément, ou plutôt bien justement, d'un rêve. Voici comment Jérusalem entrelace, entretisse savamment cette croisade avec ce qui se passe au camp. Dans la nuit, des femmes juives sont violées et leurs enfants écartelés. L'archevêque de Mayence s'en offusque. Le lendemain, il refuse de dire la messe. Ravis, chevaliers et gentes dames en profitent pour faire la grasse matinée. Tu les entends râler et ronfler. Tu sens l'odeur âcre de leur vomi, de leur sueur. Et celles suaves des restes de leur ripaille, pintades rôties, bouillon de viande, galettes aux herbes qui te triturent les entrailles. tu n'as pas été de la fête, ou plutôt tu n'as pas voulu y prendre part, te mêler aux ébats de ces fantômes, à leur danse macabre. Épuisé, tu t'es endormi, après complis. Bien que tu couches à même le sol et eux dans des lits à baldaquins brodés de fil d'or et de soie, tu dors d'un sommeil plus profond que le leur. Tu ne sais pas si tu dois les bannir de tes rêves ou bien aller les y rejoindre. Qu'ils soient des chimères ne te dérange pas le moins du monde. Les personnages de tes romans sont pour toi aussi réels que les connaissances qui t'entourent, les gens que tu croises. Très vivants, comme l'a écrit un critique. Et puis il y a, entre autres, ce débat intérieur, cette tempête sous un crâne, pour reprendre l'expression de Victor Hugo, dans Les Misérables, lorsque le maire de Montfermeil, Jean Valjean, se demande s'il doit aller se dénoncer et sauver ce paysan accusé à sa place, où rester monsieur le maire. Eh bien, on a une sorte de tempête sous le crâne de notre personnage, Pierre Delmas, qui me rappelle un petit peu, qui rappelle un peu le débat pascalien sur l'ange et la bête. Qui fait l'ange fait la bête, dit Pascal. Mais qui est l'ange ici ? Et où est la bête ? Depuis que tu euthanasies les « sujets », entre guillemets, juste avant la distribution des rations, tu as pris un peu de poids, sans compter les morceaux que tu récupères auprès des malades qui ne peuvent plus mâcher. Cela te donne des forces. Ton étreinte se fait plus robuste, broyant la gorge dès le premier serrement. Il y a quelques jours, deux jeunes officiers des forces spéciales sont venus observer la façon dont tu t'y prenais. Les gestes, à eux seuls, ne suffisent pas. Il faut d'abord aller chercher la bestialité au fond de soi, faire taire le murmure de la conscience, faire le vide. Les hommes des commandos le savent, ils s'y exercent eux-mêmes constamment. Ce qui les a fascinés, c'est la tendresse avec laquelle tu commets l'acte de tuer, dégageant une énergie quasi hypnotique qui lénifie ta victime. La bête féroce que tu es allée chercher au fond de toi, tu la caresses. Tu lui chuchotes des paroles douces que la proie croit lui être destinée, alors que c'est à la tourmente qui se déchaîne en toi que tu t'adresses. Tu es de moins en moins sûr d'être un homme. Tu n'en as plus les aspirations, les interrogations, les anxiétés. Seule la culpabilité qui te ronge te laisse penser que tu l'es encore. La faim t'empêche de penser à autre chose qu'à la faim, de ressentir quoi que ce soit d'autre. Tu n'y échappes que dans le sommeil, lorsqu'une fois passées les hallucinations de plats fumants et de corbeilles de friandises, tu parviens à rejoindre enfin la croisade. Tu aimerais y retrouver le géant dont tu as fait la connaissance autour d'un feu de camp. Il te manque. Tu vois en lui un frère, parce que, comme toi, il ne fait pas partie du monde. Raphaël Jérusalemi a dit « Cette histoire-là, c'était une danse macabre dans ma tête pendant des mois. » Dans le roman, cette histoire amène à la brève et capitale rencontre entre Paul Shaul Bernstein, l'un des squelettes livrés vivants, et Pierre Delmas. Jérusalemi s'est demandé, n'est-ce pas une solution de facilité de prendre ces grands drames, ces grandes mises en scène de l'histoire pour écrire un roman et donc appâter le lecteur? De la même façon que Paul Bernstein lui-même s'agace de ce que Guernica, célèbre tableau de Picasso peint en 1937 pendant la guerre d'Espagne et qui évoque ce massacre, ce génocide opéré à Guernica, le collectionneur Paul Bernstein s'agace de ce que ce tableau Guernica tire en somme toute sa force de cela même qu'il prétend dénoncer. Mais Jérusalemi ajoute « Depuis que j'ai écrit In Absentia, je suis convaincue de la nécessité de ce livre et de ne jamais s'arrêter d'écrire des romans à propos de la Shoah. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle Jérusalemi nous donne par écrit tous les noms, tous sans exception, de ces déportés d'Auschwitz, de ces 86 personnes qui sont livrées vivantes au Struthof le 2 août 1943. Elles y figurent et ce livre est pour elles aussi une sorte de stèle, une sorte de matzeva.